1, 2, 3, shake. It's okay. That's it, man. Wait. That's it, man.
Démocrates et républicains, éco-socialistes et effrontés pathologiques, délégitimés de la pensée divergente, bref, proboscopiennes et proboscopiens, le loup et le renard vous saluent. Vous avez la chance d'écouter Proboscopie, l'émission diffamante de la bande FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre député vert. Il a pour nom Jean-Louis Roumégas, instituteur de métier, pratiquant le RASED, l'aide aux enfants en difficulté. Il milite depuis des lustres au sein des écologistes montpelliérains. Il est surtout membre de notre conseil éditorial, c'est la raison majeure de sa présence dans nos studios. Il est donc aujourd'hui notre rédacteur en chef, notre héros d'un jour. Bonjour monsieur l'élu de la nation, la parole est bientôt à toi. Monsieur le conseiller, alors ça fait quoi d'être rédacteur en chef? Première fois où tu vas être rédacteur en chef?
J'ai bien l'intention d'en profiter aujourd'hui.
Donc le député vert crie vengeance. Bon. De quoi tu as souhaité qu'on parle? J'ai ouï dire que tu avais souhaité qu'on diverge autour de deux thèmes qui te préoccupent, la santé et la transition énergétique. Le tout dans un cadre environnemental, bien sûr. Question de malbouffe, mais aussi de dérèglement climatique, question de pollution, mais aussi d'agriculture bio ou pour le moins raisonnée, question de confort par le chauffage, la clim ou les transports individuels, enfin bref, de quoi débattre, nous en convenons volontiers. Voilà, et qui sont tes invités? Pour discuter et palabrer, tu nous as invité deux personnalités, Thierry Salomon, le sobre président grenellisé de Négawatt Anticlim, et puis le docteur Laurent Chevalier du réseau Environnement, nutritionniste des petits loups et chasseur-cueilleur du 21e siècle.
L'expert invité que je vous ai proposé, donc, qui est Thierry Salomon, qui est président de Négawatt, Négawatt qui aujourd'hui, Thierry, peut-être tu peux te présenter davantage, qui est plus qu'une simple association, qui est vraiment un réseau d'experts en matière de transition énergétique.
Oui, bonjour, merci de votre invitation. C'est effectivement un réseau d'experts, autrement dit, on s'est aperçu qu'on manquait cruellement en France d'expertise indépendante. C'est vrai sur la santé, bien sûr, c'est vrai sur les déchets, dans plein de domaines, mais particulièrement dans le domaine de l'énergie. Et depuis maintenant une dizaine d'années, ce groupe, composé d'un certain nombre d'experts, justement, enfin plus exactement de praticiens, de gens qui sont confrontés sur le terrain à des projets, essaye de travailler dans une vision, en essayant de proposer une vision et un paysage énergétique différent pour notre pays.
Et alors mon deuxième invité est Laurent Chevalier, qui est membre du réseau Environnement Santé. Et là aussi, il y a une actualité sur laquelle on reviendra. On va traiter, il faut le dire à nos auditeurs, d'abord le thème de la transition énergétique et puis dans la deuxième partie de l'émission, le thème de la santé et de l'environnement, de santé environnementale et de la santé publique tout court. Donc Laurent Chevalier est médecin, il est nutritionniste, il a publié de nombreux ouvrages et il est membre du réseau Environnement et Santé. Laurent, si tu peux te présenter toi-même mieux que je ne le ferai.
On a monté un réseau à la fois avec des scientifiques, des médecins, des pharmaciens, des associations de malades pour, si vous voulez, faire avancer les choses face à un constat, c'est-à-dire que sur le problème de l'environnement, on considère ce problème environnemental. Une récente enquête avait montré qu'il y avait l'aspect santé-environnement intéressé 52% des gens, transition énergétique après, mais c'est bien les aspects santé qui sont au cœur de l'inquiétude qu'on peut avoir, à la fois sur ce qu'on doit manger, sur effectivement comment ce qu'on doit boire, respirer même. Tout ça, ça pose tout un tas de problèmes. On a une expérience, enfin, on y reviendra
sans
tout à l'heure.
Sans compter peut-être les scandales sanitaires aussi qui ont émaillé l'actualité.
Les scandales sanitaires, et en sachant que l'ONU fait aussi un petit peu progresser les choses. On en parlera un petit peu tout à l'heure par rapport au rapport. Donc j'ai effectivement, on s'est regroupé dans le réseau Environnement Santé. Et puis, je dirais, dans l'actualité, on est aussi les premiers ici à Montpellier. Donc je participe à un groupe où on a monté une unité de médecine environnementale à la clinique du Parc. Et c'est la première fois en France où on a une équipe comme ça multidisciplinaire. Et j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on met aussi les choses en pratique. d'une part par un certain nombre de livres où on donne des recommandations, par un certain nombre d'émissions comme aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis aussi, tous les jours, au quotidien, je dirais, sur le terrain, effectivement aussi.
Alors, on pourrait dire deux points communs chez nos deux invités, des experts et des praticiens, donc ça c'est important, sur le terrain, sur les questions de santé environnementale comme sur les questions de transition énergétique. Et ça, je me permets moi de le dire, deux pointures nationales. J'espère que les divergences apprécient la qualité de nos invités parce qu'on a vraiment des experts au niveau national, aussi bien pour le réseau environnement santé que pour Negawatt, et qui jouent déjà un rôle de conseil auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ces questions-là.
Hein. Donc, nous apprécions, nous voilà. Apprécions. On pourrait commencer par une petite provoscopie. Qu'est-ce que tu penses de ce constat ? Plus on vit dans un pays riche, plus on vit vieux. Ou dit autrement, mieux vaut manger un McDo par facilité qu'un pissenlit par les racines.
Mais je pense que c'est bien de partir des mauvaises représentations des enfants pour commencer à accéder ensuite à la vérité. Socrate pratiquait ça déjà à l'époque, on partait des représentations communes pour mieux les détruire et construire une parole vraie. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je vois qu'on part de loin, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, santé et environnement, c'est un problème de société aujourd'hui. C'est vraiment un problème, même je dirais plus que de société, c'est un problème de civilisation. On est dans une société où c'est vrai qu'on vit plus vieux, mais pas nécessairement en meilleure santé. Laurent peut-être nous en dira un mot. Il y a deux chiffres à rapprocher. L'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle n'augmente pas, elle a même tendance à diminuer. D'ailleurs, sur ce constat-là, Laurent, est-ce que tu peux nous préciser un peu les choses ? Quel est l'état de la santé publique ? Quelle est l'évolution de la santé publique ? Est-ce que c'est aussi mirobolant qu'on le prétend toujours ? Dans nos pays, on vivrait mieux, en meilleure santé, et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je crois que ça n'est pas du tout ça la situation.
Voilà, la situation n'est pas du tout comme ça. Alors moi, j'étais intervenu notamment par une tribune qui a déclenché beaucoup de violence par derrière dans le monde, où avec un agronome, on avait expliqué que l'espérance de vie n'augmenterait pas et que de toute façon, c'était une très mauvaise vue des choses. C'est-à-dire que l'espérance de vie, telle qu'elle est vue, telle qu'elle est analysée, c'est une espérance de vie statistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout simplement y a moins de guerres, par exemple qu'en 14, il n'y a pas les grandes guerres qu'il y avait autrefois, une population jeune mourait très largement, eh bien elle ne pouvait qu'augmenter. Par ailleurs, il y a des progrès qui ont été faits aussi dans le domaine des maladies infectieuses, dans le domaine de l'accouchement. Je vous rappelle qu'au début du XXe siècle, les femmes qui accouchaient, c'était considéré comme avoir un pied dans la tombe. Donc il y a tout ça. Mais on a une évolution tout à fait défavorable. Pourquoi on a une évolution défavorable ? Puisque au jour d'aujourd'hui, on considère, selon les chiffres officiels de la Caisse nationale d'assurance maladie, qu'on a 45%, pratiquement 50% des gens qui ont des troubles maladies chroniques. Et quand on est intervenu dans le débat il y a 2-3 ans, en expliquant qu'effectivement, c'était l'espérance de vie en bonne santé qui comptait, eh bien, on a eu les foudres, je dirais, un peu de l'administration et notamment des statisticiens qui ont dénié à des non-statisticiens le fait de pouvoir s'occuper de telles questions. L'espérance de vie, c'est une espèce de leurre, c'est quelque chose qui est remis de façon permanente sur le tapis. Alors, effectivement, on vit plus vieux, mais effectivement, dans quelles conditions, en étant malade ? Et ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que mourir en bonne santé, ça devient quelque chose de très compliqué au XXIe siècle.
Alors c'est un peu la même problématique que pour le PNB. Hein. Ça n'est pas nécessairement le bon critère du bonheur humain. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quelles sont les maladies de civilisation, les maladies de longue durée, les maladies chroniques dont tu parlais, qui sont prédominantes ? Et quelle est l'évolution ? En quelques mots, comment on peut dresser un portrait petit peu objectif et chiffré là, de la situation sanitaire ?
Alors, il y a plusieurs aspects, mais on peut se concentrer sur un des aspects qui me paraît assez fondamentaux, c'est la chimie. Donc, ce n'est pas la chimie contestée en tant que telle, c'est les abus de la chimie. Avec, deux aspects. Le premier aspect, pareil, dans Le Monde aussi, j'avais interviewé, on avait fait pratiquement une page entière, où je dénonçais qu'on tentait de nous imposer un ordre chimique. Donc c'est bien ça dont il s'agit. Et puis, il faut voir que cette chimie, elle a tout envahi. c'est-à-dire du début de la culture des pesticides, ensuite jusqu'aux tous les éléments électroménagers, l'air intérieur, etc. Cette chimie, elle a tout envahi. Et on n'a pas pris les précautions nécessaires. Et il m'arrive parfois de donner cette image. Au Moyen-Âge, à Montpellier, eh bien, il y avait les microbes, on maîtrisait mal les microbes. Et on versait son pot de chambre dans la rue, c'est comme il n'y avait pas le tout à l'égout, on versait son pot de chambre dans la rue, et les miasmes se diffusaient, les gens tombaient malades, etc. Or, on a mis longtemps avant de comprendre qu'est-ce qui se passait, ce que c'était que ces miasmes, etc. Là, il fallait attendre Pasteur, enfin, toute une grande évolution qui a pris des siècles. Et avec la chimie, on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a déversé dans, partout dans l'environnement cette chimie sans prendre de précautions, avec des produits qui étaient particulièrement mal étudiés. On a fait exactement la même chose. Or,
on peut citer quelques exemples.
On va y revenir. Or, qui est-ce qui a permis d'enrayer une partie des maladies infectieuses ? Pas toutes les maladies infectieuses, bien entendu. C'est pas le soin. C'est pas du tout le soin. C'est la prévention. Donc là, on est dans une vraie problématique avec la chimie. Et c'est pour ça qu'on compte sur nos députés, la représentation nationale, pour faire pression pour que, effectivement, on réduise les risques chimiques. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et quand on voit ce qui se passe aussi au niveau de l'Europe, on est quand même tout à fait stupéfié. L'Europe, telle qu'on l'avait comprise, c'était quelque chose, une grande structure qui devait nous protéger, qui devait protéger les citoyens européens. Or, quand on prend l'exemple précis du bisphénol A, par exemple, sur lequel le réseau Environnement Santé a été très présent, j'ai moi-même été le premier auditionné en 2009 au Sénat concernant le bisphénol, où les parlementaires voulaient comprendre pourquoi les agences sanitaires disaient qu'il n'y avait pas de problème, alors que des scientifiques, des associations disaient qu'il fallait faire attention. Donc on a apporté des éléments scientifiques. Et je me souviens très bien de cette histoire-là, puisque 15 jours après, la ministre de la Santé de l'époque, pour ne pas la citer, Roselyne Bachelot, disait aux députés de l'Assemblée nationale, en répondant à ce qu'on avait fait un chercheur de l'INSERM et moi-même, au nom du réseau Environnement Santé, c'est qu'il ne fallait pas confondre le principe de précaution et le principe d'émotion. Bon, l'histoire lui a donné tort et le Parlement ensuite, et puis le Parlement européen a interdit dans un premier temps le bisphénol dans les biberons. Et ce qui est tout à fait étonnant au niveau de l'Europe, c'est que ce bisphénol, on a suffisamment d'arguments scientifiques pour prendre un certain nombre de précautions. Et notre député Jean-Louis Roumégas s'est intervenu à l'Assemblée nationale aussi sur ce sujet-là. Or, les instances européennes sanitaire européenne ne semble pas considérer que ça soit un problème fondamental et on arrive à cette notion absurde de petite dose. Donc comme ce sont des petites doses, eh bien il n'y a pas de souci. Bien entendu, les petites doses posent énormément de problèmes. C'est comme si au Moyen-Âge, on nous avait dit les hormones, ça n'existe pas. Eh bien si, ça existe et elles ont des effets. Et quand il y a des dysfonctionnements, ça peut avoir des grands effets délétères. Donc on est quand même ennuyé. Très ennuyé pour partir plus que de voir cette Europe qui finalement protège insuffisamment les citoyens pour tout un tas de raisons et je dirais à la fois des raisons en partie de conflits d'intérêts, mais il n'y a pas uniquement parce qu'il y a aussi des problèmes culturels, j'en parlerai un petit peu tout à
Alors,
l'heure.
Alors j'en profite pour signaler que l'Assemblée nationale a voté la semaine dernière une loi qui fait de la France un pays précurseur puisqu'aujourd'hui le bisphénol A, qui était déjà interdit dans les biberons des enfants, sera interdit dans tout contenant alimentaire, et donc faisant de la France le pays le plus en avance en termes de législation en la matière. Bon, il y a eu des débats sur les délais d'application, on aurait aimé plus, mais malgré tout, on est quand même dans une loi qui fait de notre pays un précurseur. Tu as cité le bisphénol A, c'est pas le seul scandale sanitaire, parce qu'il faut voir que les scandales sanitaires qui émaillent l'actualité sont finalement la partie émergée de l'iceberg, mais d'un problème beaucoup plus général, je crois qu'on a commencé à le comprendre dans ce que tu disais, qui est qu'on a diffusé des éléments chimiques un peu sans contrôle et qu'on se rend compte que certains de ces éléments chimiques, il ne faut pas non plus affoler tout le monde, mais certains de ces éléments chimiques posent de graves problèmes de santé publique. Est-ce qu'on peut citer quand même, à part le bisphénol A, moi je dirais les deux, trois types de produits qui posent problème et qu'il faut vraiment réglementer.
Je peux compléter la question parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose en disant ça implique des conflits d'intérêts. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, c'est une question plus générale pour recouper un petit peu ce que dit Jean-Louis, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces produits chimiques, ils ne sont pas produits par des PME, PMI, ils sont produits par des grands groupes qui ont une influence internationale, qui sont des multinationales. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand on s'attaque à ça, on s'attaque à des lobbies absolument fantastiques? Et deuxièmement, on s'aperçoit, moi je me souviens, il y a 30 ans, on parlait des pluies acides, par exemple, qui détruisaient la forêt noire en Allemagne. Ce sont les mêmes groupes qui produisaient ces effets catastrophiques de manière industrielle, notamment toute la Ruhr, etc., qui ont fabriqué les meilleurs filtres. Donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si on arrive à démontrer que la lutte contre la pollution liée, ou pollution générale, hein, pas la pollution au sens restreint du terme, si demain on arrive à démontrer que la lutte contre la pollution des produits chimiques devient rentable, ce sont les mêmes groupes qui vont fabriquer et qui vont éradiquer le problème qui est posé. C'est-à-dire qu'on est dans un système productiviste, à mon avis, et donc on est dans un système mondialisé. Et donc j'ai le sentiment que notre progrès, vous savez, le rapport 80-20, hein, on consomme 80% de ce qui se produit et nous ne sommes que 20% de la planète. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le même phénomène à l'échelle entière ?
Laurent, là-dessus ?
Alors c'est exactement ce qui se passe. Alors on va prendre un exemple très précis, celui de l'eau. Donc celui de l'eau, on a un déversement de pesticides dans l'eau, de résidus de médicaments, etc. Et la réflexion, ce n'est pas du tout comment on fait pour réduire les pesticides. La réflexion, c'est comment on améliore les filtres. Et là, effectivement, ce qui se passe au niveau de l'eau, on a trois grands groupes internationaux qui vous assurent d'améliorer les filtres. Alors, c'est vrai que les filtres s'améliorent. Hein, donc, c'est des filtres en plus nanoparticulaires. Donc, on espère par ce biais-là de faire avoir une image positive des nanoparticules. Donc, nanoparticulaires qui, effectivement, arrêtent un certain nombre de molécules chimiques comme les pesticides et certains résidus médicaments. Donc, on essaye de nous faire adapter ça. Enfin, on essaye de nous faire en sorte qu'on accepte ce genre de choses qui va avoir un coût, qui va avoir un coût énorme. On a la même chose pour les déchets. Maintenant, les déchets, c'est très rentable de traiter les déchets, de recycler les déchets. C'est très, très rentable. Il y en a qui se font de véritables fortunes. Et donc, quand on voit ce qui se passe un petit peu, ils ne veulent surtout pas qu'on diminue les déchets. Au contraire, les grands groupes ont investi dans les déchets. Et le recyclage des déchets rapporte énormément d'argent. Donc, on est effectivement face à des paradoxes de ce type-là. Alors que, bien entendu, ce qu'il faut absolument, c'est limiter l'usage des pesticides. Il faut absolument limiter, bien entendu, les déchets. Et les pesticides, pourquoi aussi il faut les diminuer ? C'est pas que pour... Alors, il y a plusieurs aspects pour les pesticides.
Il y a l'environnement et la santé.
Il y a l'environnement et la santé. Je dirais que sur l'environnement strict, le problème des pesticides, c'est quand même que ça détruit tout. C'est fait pour tuer. Dans le sol, il n'y a plus rien. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, d'aller voir un agriculteur de la région, à Villeneuve-les-Maglognes, il m'a dit « Tiens, je vais te montrer quelque chose ». Il retourne la terre et il sort tout fier un ver de terre. Il dit ça, tu ne verras jamais sur les terres conventionnelles parce que ça détruit tout. Et tout ça, ça a des conséquences. Après ça, le ver de terre, il brasse à peu près 300 tonnes de terre par an. La terre, après ça, elle se tasse, elle perd de ses propriétés, etc. Donc, on a ce problème des pesticides.
À Villeneuve, ils en sont même au point de ne plus labourer véritablement puisqu'ils ne retournent la terre que sur moins de 15 cm.
Ouais.
Je ne sais pas si on parle du même paysan, du même agriculteur.
Et donc, ensuite, il faut voir que pourquoi il faut mieux consommer du bio parce qu'on est moins exposé aux produits chimiques. Alors le vrai bio, pur bio, etc., ça n'existe plus parce qu'il y a une pollution généralisée. Et puis, il y a aussi, pareil, une tribune que j'avais fait dans Le Monde où défendait le bio. On l'a défendu encore il n'y a pas longtemps dans Le Monde et des sciences. Où on disait, est-ce qu'il est moralement acceptable de consommer des produits dont on sait qu'ils rendent certaines catégories de population malades, en l'occurrence les agriculteurs, puisque le lien entre pesticides et maladies de certains agriculteurs, comme les lymphomes, les cancers du sang, a été établi. Alors, on le savait, mais ça a été établi de façon tout à fait formelle en 2011 par un congrès qui avait eu lieu à Marseille. Donc, est-ce que moralement, on a le droit de consommer des produits dont on sait qu'ils rendent malades, peuvent rendre malades des agriculteurs ?
Alors, Laurent, avant qu'il y ait la pause musicale, je voulais te faire préciser deux choses, parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que toute chimie, tout est nécessairement nocif. Il y a certains qui nous disent oui, mais alors si on vous écoute, on peut plus rien consommer, on peut plus rien faire. C'est pas du tout ça. Les études sont plus sérieuses. Je voudrais que tu précises à cet effet la notion de perturbateur endocrinien. Il n'y a pas que le bisphénol A, il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire un perturbateur endocrinien ? Et parce que ça, d'après le réseau Environnement Santé, c'est la priorité, c'est supprimer les perturbateurs endocriniens.
Alors, effectivement, il faut agir sur les perturbateurs endocriniens. Alors, tous les probablement que tous les perturbateurs endocriniens n'ont pas tout à fait les mêmes actions, etc. Mais on est arrivé à une situation d'urgence, de grande urgence.
Qu'est-ce que c'est d'abord ?
Notamment par rapport aux enfants et aux femmes enceintes. Perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules, un grand nombre sont des molécules de synthèse qui vont modifier le métabolisme. Je m'explique. Au niveau des cellules, vous avez ce qu'on appelle des récepteurs. Et les hormones vont agir sur ce récepteur et la cellule va ensuite répondre en fonction de la stimulation de ce récepteur. Les perturbateurs endocriniens, eh bien, soit vont mimer les hormones, donc ça a un effet ce qu'on appelle agoniste, donc ça va amplifier par exemple pour les estrogènes, donc ça peut favoriser les cancers du sein parce qu'on sait qu'une hyperestrogénie peut favoriser les cancers du sein quand elle perdure. Ou au contraire, avoir une action antagoniste, c'est-à-dire empêcher l'hormone d'agir. Et là aussi, ça va créer des déséquilibres. Donc ces perturbateurs endocriniens qui ont envahi un grand champ actuellement de notre environnement immédiat, jusque par exemple, dans le simple dentifrice. Dans le simple dentifrice, vous avez ce qu'on appelle une substance qui s'appelle le triclosan, qui est censé utiliser pour lutter contre le développement de micro-organismes, mais qui est un perturbateur endocrinien. Donc, est-ce qu'il faut garder ce triclosan dans les dentifrices ? Alors, tous ne l'ont pas, mais est-ce qu'il faut garder cela ?
Il y a une liste, là, de ces fameux perturbateurs.
Alors, c'est l'objet du prochain bouquin que je vais sortir au mois de mars, début mars, chez Fayard, sur expliquer un petit peu de façon plus précise tout ça. Toujours est-il que, pour répondre à la question de Jean-Louis, donc les perturbateurs endocriniens sont effectivement une priorité en termes de protection de l'enfant et de la femme enceinte. Pourquoi ? Parce que l'exposition à ces perturbateurs endocriniens entraîne des dommages irréversibles, notamment sur le cerveau. J'ai rappelé aussi, j'ai aussi toujours ce journal-là, mais enfin j'ai intervient dans de nombreux autres journaux, mais dans Le Monde, j'avais expliqué une chose très simple. C'est que les enseignants, parfois, sont face à des enfants qui sont agités, qui ont des actes un petit peu saccadés, qui bougent beaucoup, etc. Et les enseignants s'en sortent pas. Or, le bisphénol A, par exemple, est identifié comme pouvant entraîner des perturbations neurocomportementales. Il faut savoir que, je dirais, la papesse, entre guillemets, du bisphénol A, qui est Anna Soto, à qui j'avais parlé avec elle lors d'un congrès, eh bien, elle explique que quand ils ont démarré leurs expériences aux États-Unis, une femme américaine, les souris qu'ils utilisaient, qui étaient soumis au bisphénol, ils les appelaient les souris pop-corn, parce que de temps en temps, paf, elles se mettaient à sauter dans la cage sans raison. Donc, ils appelaient ça les souris pop-corn. Donc, je veux dire, ça induit des troubles neurocomportementaux.
Alors, on doit terminer. Juste, il y a une proposition du réseau Environnement Santé qui est une loi pour supprimer toute exposition.
Voilà, pour beaucoup mieux contrôler tous ces perturbateurs endocriniens. En fait, la source de notre réflexion, c'était aussi un projet de loi aux États-Unis qui s'appelle le projet de loi Kerry, qui était de la protéger la famille et qui visait à limiter l'usage, à supprimer, eux, ils sont bouleversés, enfin, de façon assez radicale aussi, le réseau environnement santé, les perturbateurs endocriniens de synthèse chimique que l'on peut effectivement éviter dans un très très grand nombre de cas.
One, two, three, check. Okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.